Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire de Nordal le Lombais. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Guillaume Maury, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute. L'adjudant-chef Olivier Doudet et son équipe dressent le portrait de Nordal le Lombais.
Il n'est pas marié, il a plus de petit ami attitré, il vit encore chez ses parents, c'est quelqu'un qui est un peu frimeur, qui aime bien les motos, il aime bien la vitesse, il aime bien les voitures de sport, il est un peu flambeur quelque part. Alors que ses amis, petit à petit, se sont casés, se sont rangés, travaillent, ont une femme, des enfants, voilà. Donc lui, il est un peu encore le mauvais élève, je dirais, de la troupe.
Nordal le Lombais a une grande passion, les chiens. Il possède deux Malinois et pour passer du temps avec eux, il s'est engagé dans l'armée, à 18 ans, où il a appris le dressage.
Le procureur Jacques Dallest.
Lui aurait souhaité faire une carrière de militaire professionnel. Il avait donc sa qualification de maître chien. Ça s'est pas très bien passé parce que très indépendant, il avait du mal à se plier à la discipline. Ses chefs ont dit qu'il était ingérable, que ça se passait pas bien.
Au bout de 5 ans, le caporal Le Lombais est radié de l'armée.
L'adjudant-chef.
Va s'en suivre ensuite différents emplois. On aura peintre, électricien, cariste, manutentionnaire, serveur, conducteur d'ambulance. Et ce, jusqu'au 8 mars 2017, date à laquelle il n'exercera plus aucune activité professionnelle.
Le Lombais a un petit casier judiciaire, mais bien loin du profil d'un kidnappeur. Ses amis sont sidérés par les soupçons qui pèsent sur lui.
Personne n'y croit. C'est pas le nono qu'ils connaissent, c'est pas le nono avec qui ils font la fête, c'est pas lui, il peut pas avoir commis un truc pareil, sachant qu'il a du succès, je dirais, avec les femmes, donc personne n'y croit. Mais nous, ça nous met un doute. Même si on a tous ces éléments-là, on reste très prudent, puisqu'effectivement, la description qui nous en est faite par rapport à ses proches ne correspond pas.
La famille de Le Lombais sollicite un ténor pour assurer sa défense, maître Alain Jakubowicz.
La presse, notamment les chaînes de télévision continue, enfin matraque dessus, et la présentation qu'on fait de lui, elle est effroyable, quoi. L'ennemi public numéro un. Et j'arrive à la maison d'arrêt, puis je rencontre un garçon qui a une tête, deux oreilles, un nez, des yeux. Je vois pas un monstre, il n'a pas des poils de partout et il n'a pas... voilà, et qui effectivement est complètement abattu. Bon, clairement, lui, il hurle son innocence. Et moi, je dis que évidemment, le juge de paix pour un avocat dans ces cas-là, c'est le dossier.
Et dans le dossier, il n'y a qu'un ADN de contact. Maëlys est donc entrée dans la voiture et ça... Le Lombais ne le conteste pas. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il l'a tué.
Seul contre tous, je vais montrer que cet homme que l'on désigne comme le coupable est en fait un innocent. Voilà, je dirais que c'est un peu le fantasme de tout avocat à partir du moment où il est dans une défense qu'il y est pleinement.
Pour la défense, le dossier est vide, mais la juge ne lâche pas l'affaire.
On va très vite se rendre compte, au travers de son parcours de vie, qu'il a plusieurs facettes. On peut avoir le copain idéal, le bon copain qui aide à faire les déménagements, qui est là pour les soirées, qui est plutôt sympa, festif, ce genre de choses. Mais double facette qui est exprimée par rapport notamment à sa vie amoureuse. Très vite émergent des auditions d'ex-copines qui vont dire « Ah bah oui, mais quand on veut rompre, alors là, ça devient plus difficile, il peut être colérique, il aime pas qu'on lui dise non. »
On a affaire à quelqu'un qui est vraiment impressionnant physiquement. Son regard fait peur, ses mots peuvent faire peur, son comportement peut faire peur. Il y a plusieurs de ses petites amies qui, notamment une qui avait déposé plainte, qui ont fait part d'un comportement violent. C'est pas une violence physique outrancière, c'est une violence verbale et une violence qui va s'arrêter jusqu'à la limite du passage à l'acte.
Elle va nous déclarer qu'en avril 2017, elle est en forêt et elle rencontre Nordal Lelandais et elle est sidérée parce qu'elle est Nordal Lelandais avec deux chiens malinois et elle va dire il a un tailleuet dans le dos. Et elle dit j'ai vraiment très peur et en fait je cours parce que j'ai peur pour ma vie.
Les gendarmes comprennent pourquoi le type a deux téléphones portables. Un pour la famille et pour les amis. Et un autre pour la drague sur les applis de rencontre.
Certaines connaissances vont l'appeler Jordan, puisqu'il va s'appeler sous pseudonyme Jordan. Donc on a Nono pour les amis et on a Jordan pour les différents sites de rencontre.
Sur l'un de ces téléphones dont il dit c'est le téléphone à fille ou en tout cas relation amoureuse, on voit qu'il y a des échanges assez sexualisés, qu'il a une vie sentimentale assez riche, on va dire. Donc, il y passe beaucoup de temps, on a l'impression.
Un profil confirmé par l'expert psychiatre Paul Bensussan.
Nordal Lelandais avait une sexualité tout à fait débridée, à la fois hyper conforme dans le registre hétérosexuel où c'était très calqué sur l'imagerie pornographique. Une de ses conquêtes, si je peux les appeler comme ça, lui avait demandé d'aller au restaurant pour son anniversaire. Non, pas de temps à perdre dans un restaurant.
Et puis Nordal Lelandais a une autre vie, très secrète celle-là, sur les réseaux de rencontres homosexuelles.
Dans le registre homosexuel, il y a eu des comportements déviants, de la participation à du SM, à la demande bien sûr selon lui du partenaire qui était insoumis et qui demandait à Nordal de se transformer en dominateur avec des simulations de viol et même d'enlèvement. Dans le coffre de la voiture, on se dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas passé loin.
Alors ça, Dominique, ça intéresse beaucoup la juge et les gendarmes en charge de l'enquête sur l'enlèvement d'Arthur Noyer.
Oui, Christophe, parce que Lelandais avait effectivement des relations homosexuelles, dont une relation très suivie entre octobre 2016 et son arrestation. Il a un copain qu'il voit régulièrement, hein, qui figure dans son téléphone portable sous le nom de Tania Tétine. Les gendarmes vont le retrouver, vont l'interroger. Il leur raconte que leur relation est une relation dominant-dominée, qu'ils se sont connus sur un site homosexuel, qu'ils se retrouvaient au lac d'Aigbelette à la sortie du péage. Lelandais venait parfois habillé en militaire, son partenaire s'habillant en latex. Une fois, avec l'accord de l'homme en latex, Lelandais l'a enfermé dans le coffre de sa voiture. Et cet homme raconte que Lelandais prenait de la cocaïne beaucoup, avant et pendant leur relation sexuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vie secrète de Lelandais, sa vie homosexuelle, il n'en a jamais parlé à personne.
Alors ça éclaire l'enlèvement d'Arthur d'un jour nouveau, parce qu'on se dit que le mobile pourrait être de nature sexuelle.
Les gendarmes pensent que ce soir-là, Lelandais est en chasse. C'est un gros addict au sexe. Et ce soir-là, il a envoyé une tonne de SMS à une copine qu'il veut voir en lui disant « je veux qu'on se voit ». Elle lui dit « non, mais si, mais non ». Bon, et elle finit par lui envoyer ce SMS. Elle lui dit « trouve-toi une meuf qui dit tout le temps oui ». Et elle lui conseille d'aller faire soigner ses pulsions sexuelles.
Mmh. Il y a d'autres choses intéressantes dans le téléphone ?
Ouais. 13 jours après la disparition d'Arthur Noyer, Lelandais fait des recherches avec ses mots-clés sur son téléphone, décomposition, corps humain.
Cette fois, les gendarmes de Chambéry ont assez de billes pour aller chercher Lelandais en détention. Sa garde à vue commence le 18 décembre 2017, 8 mois après la disparition d'Arthur.
La mère d'Arthur Noyer apprend la nouvelle.
Un coup de fil du journaliste du Dauphiné. Et il me dit, c'est Lelandais. Alors là, il fallait mieux que je sois assise. C'est pas possible. Je rentre à la maison et j'ouvre la porte. Didier est derrière. Et je lui dis, s'il est mêlé de près ou de près par rapport à la disparition d'Arthur, Arthur, on ne le reverra pas vivant. C'est les mots que je lui ai dit quand je suis rentrée à la maison.
La chef d'escadron Stéphanie Lemahout est au travail.
Cette garde à vue, on la prépare en sachant qu'elle va être difficile. On a quelqu'un de froid qui n'est pas dans l'empathie, qui je crois ne peut pas l'être. Et du coup, on se dit, c'est les éléments matériels de téléphonie, de vidéosurveillance, qui vont servir à le confronter aux faits pour lesquels il est placé en garde à vue.
Les gendarmes sont confiants, ils ont du biscuit. La vidéosurveillance, la téléphonie, tout montre que le Landais a bien rencontré Arthur Noyer.
Et à ça, il n'a aucune réaction. Il reste impassible en nous disant « Ah oui, c'est troublant ».
Son avocat tombe des nues.
Je découvre les choses. Je découvre les choses et je me rends compte que ça va être, là, pour le coup, plus compliqué. Parce qu'il y a des choses matérielles qui n'existent pas à ce moment-là, dans le dossier de la petite Maëlys.
D'autres rendraient les armes devant les éléments accablants des gendarmes. Mais le Landais, lui, s'en fait.
Sur la recherche, sur la décomposition de corps humains. Ah, j'adore les documentaires sur RMC Découverte. Je les regarde régulièrement. Et suite à ce reportage, j'ai voulu faire des recherches pour voir ce qu'il disait, si ce qu'il disait dans le reportage était exact ou pas. Il a une réponse à tout.
Ou éventuellement, il reste vague. Il reste vague en attendant, comme une partie d'échec, de voir quel pion va avancer. Et si lui avance aussi.
Comme dans l'affaire Maëlys, le Landais s'adapte et ne lâche rien. Il ne reste que quelques heures de garde à vue quand les résultats d'une analyse ADN tombent. Ce sont les analyses d'un crâne retrouvé sur un chemin de randonnée 2 mois plus tôt. Un crâne qui, à l'époque, n'a pas été exploité.
La juge d'instruction, Emmanuelle Bouillet, reçoit un appel.
Les gendarmes m'appellent pour me dire « On vient d'avoir un retour, ça a matché, le crâne, c'est celui d'Arthur. » Le coup de tonnerre de la garde à vue, pour nous, le matin, on ne savait toujours pas qu'on avait en notre possession le crâne d'Arthur Noyer.
En toute fin de garde à vue, les gendarmes annoncent à Nordal-Lelandais que le crâne d'Arthur Noyer a été retrouvé.
La même chose qu'à chaque fois qu'on lui présente des éléments à son encontre, rien. Pourtant, son téléphone est localisé à l'endroit où le crâne est retrouvé, et ça lui fait ni chaud ni froid, aucune réaction.
Au cours de cette garde à vue, Lelandais ne reconnaît qu'une seule chose. C'est bien lui qu'on voit sur les caméras de vidéosurveillance de la ville de Chambéry. Mais c'est tout.
Le major Geoffroy Bernard.
Il n'a jamais pris Arthur Noyer en stop, il n'a jamais pris qui que ce soit en stop ce soir-là. Il était seul dans sa voiture. Il n'a rien à voir avec les faits.
Mais là, ils ont du biscuit. Hein. Clairement, le caporal Noyer est monté dans la voiture de Nordal-Lelandais et Nordal-Lelandais le conteste. Donc là, les choses deviennent plus compliquées, c'est sûr. Et à partir du moment où le doute vous envahit, il vous envahit surtout. Forcément, et on est humain, hein. Donc c'est vrai que, pas dire que j'ai pas eu l'idée de tout envoyer bouler, mais j'ai une équipe, des gens qui, voilà, et qui me disent, voilà, Alain, vous avez pas le droit, vous pouvez plus, c'est trop tard, il faut y aller, quoi.
Et de deux. Après le dossier Maëlys, c'est dans le dossier Noyer que Nordal-Lelandais est mis en examen, cette fois pour assassinat.
Ses parents apprennent la nouvelle.
Avec Arthur, on avait, compte tenu de son boulot, on avait évoqué la mort. Hein, je veux dire, c'est quand même un métier à risque. Et donc, il nous avait dit ce qu'il voulait. Il voulait être, vous donner à la science tout ce qui est prenable sur moi. Puis après, vous me faites incinérer, quoi.
Donc même ça, je trouve, vous voyez, il lui a pris la vie. Il lui a même volé ses dernières volontés.
Ça bouge à Chambéry, mais pas à Grenoble. Parce que l'ADN de Maëlys sur le commodo de phare, ça prouve quoi? Que la petite est montée dans la voiture, c'est tout. La juge veut mieux. Une preuve que le Landais lui a fait du mal. Une trace de sang, par exemple. Elle appelle donc l'IRCGN. Repassez-moi cette voiture au crible.
Et le rapport tombe, 4 mois après la disparition de Maëlys.
La juge d'instruction Gaëlle Bardos.
En janvier, on a un retour d'expertise qui nous dit « Ben non, il n'y a pas d'ADN dans la voiture ». Alors là, on en a... C'est lourd pour tout le monde, on se dit, mais c'est pas possible.
La juge ne peut pas le croire. Il y a forcément quelque chose. Le lendemain de la disparition de Maëlys, le Landais a passé près de 2 heures à récurer sa voiture.
L'adjudant-chef, Olivier Doudet.
On voit qu'il consacre 47 minutes au nettoyage de son coffre, qu'il utilise des lingettes, qu'il utilise différents produits, qu'il utilise même un pulvérisateur de produits à jantes dans son coffre.
Et on se dit, mais qui fait ça? C'est évident qu'il y a quelque chose à cacher. Donc, décision est prise de dire, mais non, alors là, ça suffit. On sait qu'il a insisté sur une zone particulière de la voiture. Il faut y aller, il faut tout démonter. Il faut, ça coûtera ce que ça coûtera. On va faire hors norme, budget hors norme. Il faut chercher jusqu'au bout.
Et c'est parti pour une deuxième expertise. La voiture, l'IRCGN va la désosser pendant 15 jours. Le coffre, comme scanné, millimètre par millimètre.
Et là, ça va marcher. Et là, c'est... J'oublierai jamais le coup de fil de l'expert.
Une goutte de sang de Maëlys, enfin! De la taille d'une tête d'épingle, dans un interstice du coffre.
On est partagé de la satisfaction de dire, ben, ce qu'on a fait, c'est... On a un résultat. De se dire, mais se satisfaire de cette preuve qui veut aussi dire que cet enfant est décédé, ça c'est terrible, parce qu'on voudrait autre chose, on voulait une autre issue, mais en même temps de dire enfin.
C'est échec et mat, parce que là, à partir de ce moment-là, on sait qu'il va être très compliqué pour lui et pour ses conseils de prouver son innocence.
C'est plus le même dossier à partir de ce jour-là, voilà. C'est tout, c'est comme ça, je veux dire que... Et on m'a beaucoup dit, votre client vous a menti, etc. Mais depuis quand un client doit dire la vérité à son avocat, quoi? Après, c'est à lui d'en décider.
Le 13 février 2018, 6 mois et demi après la disparition de Maëlys, Alain Jakubowicz retourne voir son client en détention. Expertise génétique en main.
Il est loin d'être idiot, Nordal. Hein, il est loin d'être idiot. Il a parfaitement compris que c'est son intérêt qu'aujourd'hui, puis c'est plus possible. C'est plus possible. Et donc, il y a eu des longs moments, surtout de silence. On y va, Nordal, ou on n'y va pas? On y va ou on n'y va pas? Parce que c'est la première chose qu'on va vous demander, c'est où est le corps de l'enfant? Nordal, c'est pas moi qui décide. D'accord? Moi, je suis la courroie de transmission. OK? Mais pour moi, c'est la condition sine qua non. Moi, c'est... S'il n'y a pas ça... C'est plus moi.
Et à la sortie de son entretien avec son client, Alain Jakubowicz appelle le cabinet des juges d'instruction.
Je suis au ski, et là le téléphone sonne, et le collègue me dit, il va nous dire où est Maëlys. Je pense que toute la station m'a entendu hurler. Parce que vraiment, moi, c'était la ligne de mire. C'était ce que j'avais, entre guillemets... indiqué aux parents, c'est qu'on faisait tout pour leur rendre leur enfant.
Le lendemain, le Landais est dans le bureau de la juge d'instruction. Et le ton change. Il veut maintenant rendre le corps de Maëlys à sa famille. Comment il l'a tué? Il le dira plus tard. Le Landais ne lâche qu'une seule chose. Cette pauvre petite, je l'ai tuée involontairement. La juge d'instruction organise immédiatement un transport pour retrouver le cadavre de l'enfant.
Évidemment, les journalistes comprennent très vite qu'il y a du nouveau dans le dossier Maëlys. Les médias suivent le convoi. Pendant toute une après-midi, des dizaines de gendarmes arpentent la région d'Attignan-Oncin, où le Landais dit avoir déposé le cadavre de Maëlys.
Lui est très approximatif. Je pense que ça doit être par là. Je pense que là, c'est peut-être là. Ah ben non, c'est pas là. Voilà. Donc ça prend plusieurs heures.
C'est lui le boss. Il est dans un véhicule avec des gendarmes et c'est lui qui dit tournez à droite, tournez à gauche, etc. Et je suis avec ma collaboratrice. S'il promenait tout le monde, quoi. C'était ma grande angoisse. C'était ma grande angoisse.
jusqu'au moment où il nous dit là, je pense que c'est là. Dans les minutes qui vont suivre, on va l'extraire forcément de cet endroit-là. On va se mettre un peu plus haut et il va s'effondrer et il va s'excuser en s'adressant à Maëlys devant tout le monde.
Ma collègue lui a poliment demandé de se relever et de se comporter autrement. Voilà.
Les gendarmes déblaient cette zone enneigée et très escarpée.
Et les chiens vont commencer à intervenir jusqu'à ce qu'on entende l'un des maîtres chiens dire « ça a matché ». L'un des techniciens criminels va dire « j'ai un fémur » ou « j'ai... il y a quelque chose ». Voilà. Silence partout.
Les tiques retrouvent d'autres ossements et la robe de Maëlys.
Là, on est bien évidemment avec une robe blanche qui est dégradée, qui est souillée par la terre, par voilà. Elle est à l'opposé de cette photo, effectivement, où, qui a été diffusée de partout, avec ce côté colombe blanche, cette pureté. On est à l'opposé de ça.
Alors qu'on est en train de découvrir le corps de Maëlys, il y a une autre urgence qui vient s'ajouter, médiatique, de dire « mais attendez, il faut que les parents le sachent avant ». Il n'y a pas beaucoup de minutes pour s'organiser. Et là, on prend attache avec les parents pour les aviser qu'on a retrouvé des ossements, a priori, de leur enfant. Un moment aussi qui laissera des souvenirs. Ça, il n'y a pas de doute.
Dans la foulée, le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquilla, organise une conférence de presse.
Mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. Ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert les restes de l'enfant.
Dominique, ce 14 février, le Landais, en fait, il ne dit pas grand-chose. Il dit qu'il a tué Maëlys involontairement, par accident. Mais face au juge d'instruction, bizarrement, il change de ligne.
On est le 19 mars 2018, ça, c'est son procès-verbal d'interrogatoire devant les juges. Il explique que ce jour-là, Maëlys, au mariage, a voulu voir ses chiens. Je lui ai demandé si elle avait demandé à sa maman. Elle m'a dit oui. Il emmène Maëlys en voiture discrètement, sans prévenir personne. Il raconte qu'au bout de 5 minutes, c'est son expression, Maëlys s'est mise à chouiner, à paniquer. Elle veut retourner au mariage, elle veut retourner voir ses parents. Et là, il dit, j'ai eu le geste incompréhensible. Il lui donne un coup très violent à la tête. Maëlys pleure et puis elle ne bouge plus. Il décide de continuer à rouler jusque chez lui. Il dépose le corps de Maëlys devant un cabanon et il retourne au mariage. Et là, après le mariage, il revient chez lui. Il prend le corps de Maëlys, il le charge dans le coffre de sa voiture et ensuite, il dit « je roule, je m'arrête à un endroit ». Il dépose le corps de Maëlys dans le fossé. Il pose une pierre sur le corps, il rentre chez lui et il dit « je suis incapable d'expliquer pourquoi, je ne voulais pas, je n'arrive pas à comprendre ».
Et il dit bien qu'il n'a porté qu'un seul coup.
Oui, d'abord il dit un seul coup. Et puis quelques semaines plus tard, il va évoluer. Il parle de 3 ou 4 coups très violents, poing fermé. Et il dit « j'ai pris le pouls de Maëlys, son cœur ne battait plus ».
Le corps de Maëlys va rester 6 mois dans la nature. Alors évidemment, ça va compliquer le travail des médecins légistes.
Forcément, parce que les légistes travaillent sur un squelette. Donc ils peuvent quand même dire que Maëlys a une fracture du nez, qu'elle a une double fracture de la mâchoire. Impossible pour eux de déterminer les causes de la mort. Est-ce qu'elle était asphyxiée, traumatisme crânien, hémorragie? En tout cas, leur conclusion, c'est que les seuls coups décrits par le Landais ne peuvent pas causer la mort de Maëlys.
Est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles?
Aucun élément matériel ne peut établir un passage à l'acte sexuel sur Maëlys, disent les experts. Mais là encore, on est 6 mois après et les experts travaillent sur un squelette.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'affaire Nordal-Lelandais. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.